Il est 19h en temps universel. Nathalie Barge pour vous présenter ce bulletin d'information du dimanche 2 mai 2021. Au Tchad, la junte nomme un gouvernement de transition. Nous aurons les détails dans le prochain bulletin. Elle a par ailleurs annoncé la levée du couvre-feu instauré le 20 avril dans un décret du porte-parole de l'armée Azem Bermandoa Aguna. Les autorités ont affirmé vendredi avoir tué des centaines de rebelles en 48 heures dans la région du Kanem. L'armée avait déjà déclaré le 19 avril en avoir tué 300. 246 avaient été capturés et déférés au parquet de N'Djamena. Au Nigeria, 7 civils et un officier ont été tués dans des attaques djihadistes ce week-end contre 2 bases de l'armée dans l'état de Borno. Ce dimanche, des djihadistes à bord de camions et en moto ont attaqué une base à Adjiri près de Maïdougouri. Ils ont réussi à y pénétrer au bout de 2 heures de combat, forçant les militaires à battre en retraite. Les assaillants ont ensuite pris la fuite en emportant des armes de la base. Hier soir, des djihadistes à bord de 6 camions armés ont attaqué une autre base à Rane, mais ont été repoussés selon l'armée. Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a limogé la ministre du Commerce selon un décret rendu public sur le compte Twitter de la présidence. Les actes d'Immaculée Ndabaneze risquent de compromettre l'économie, indique le texte. La ministre aurait été limogée pour la vente du dernier avion d'Air Burundi et le détournement de fonds destinés à la future compagnie aérienne. L'avion qui ne volait plus depuis 10 ans aurait été vendu à des hommes d'affaires sud-africains sans l'aval du gouvernement. Plus de 600 migrants clandestins ont été secourus en 48 heures au large de la côte ouest de la Libye par les gardes-côtes, a indiqué la marine libyenne ce dimanche. Les patrouilles en ont secouru plus de 300 vendredi à bord de 4 canots pneumatiques. 2 autres groupes ont été interceptés vendredi et samedi et ramenés à la base navale de Tripoli, où ils ont été pris en charge par l'organe anti-immigration du ministère de l'Intérieur. En France, dirigeants politiques et syndicaux condamnent les violences durant la manifestation parisienne du 1er mai qui ont fait 21 blessés dans les rangs de la CGT. Selon le syndicat, les militants ont été victimes d'une extrême violence commise par des individus, dont certains se revendiquant des gilets jaunes. Le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête a été ouverte. Les cortèges du 1er mai en France ont rassemblé plus de 110 000 manifestants. En Allemagne, 93 policiers ont été blessés, 354 personnes ont été interpellées à Berlin. Lors de ces rassemblements du 1er mai, marqués en soirée par des échauffourées selon la police et les autorités locales qui ont dénoncé ces violences, 30 000 personnes ont défilé lors de la journée de la fête du travail dans plusieurs cortèges dans la capitale allemande. Le président américain Joe Biden a évoqué ce dimanche la mort d'Oussama Ben Laden, tué il y a 10 ans lors d'un raid des forces spéciales américaines. Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, a été présent le 1er mai 2011 à la Maison-Blanche pour suivre en direct l'opération Abbottabad au Pakistan qui avait abouti à la mort du chef d'Al-Qaïda. Évoquant le retrait prochain des troupes américaines d'Afghanistan, M. Biden a souligné que les États-Unis resteraient vigilants face à la menace des groupes terroristes. En Turquie, le bras droit de l'ancien chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, a été arrêté à Istanbul, selon les médias locaux. Des policiers ont capturé cet Afghan qui répond au nom de code de Bassim. Lors d'un raid dans le quartier d'Ataseir, Baghdadi a été tué en 2019 lors d'un raid des forces spéciales américaines mené avec l'aide de combattants kurdes dans la province syrienne d'Idlib. Bassim, qui l'avait aidé à se cacher, est arrivé à Istanbul avec un faux passeport. Voilà pour ce bulletin d'information. Le prochain, c'est dans moins d'une heure.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Ce soir, nous découvrons ensemble le kimbanguisme. Lionette Manira Kahima sur la mise en onde, Eric Manira Kiza à la présentation. Église chrétienne d'Afrique née au Congo, le culte kimbanguiste a célébré le 6 avril dernier ses 100 ans en saluant Sainte Donkamba, signe distinctif de l'église fondée par Papa Simon Kimbangu. Les pagnes blancs et verts ont déferlé sur la ville sainte et la nouvelle Jérusalem Donkamba dans la province du Congo central. C'est environ 200 km à l'ouest de Kinshasa, jadis l'épicentre du prestigieux royaume Congo avant l'arrivée des Européens au 15e et 16e siècle. Pour comprendre les pratiques de l'église kimbanguiste, la différence et les similarités entre le kimbanguisme des églises de réveil et les catholiques, nous aurons deux invités. Joseph Diangienda Ndekani, un fidèle de kimbanguiste. Nous aurons également le père Jean-Pierre Bonguila, professeur de leadership. Encore une fois, bienvenue. Je commence avec vous, professeur Jean-Pierre Bonguila. Je signale que vous êtes à Minneapolis, dans le Minnesota. Merci d'être avec nous. Professeur, le kimbanguisme obéit à quelle doctrine?
S'agissant de leur doctrine, ils se disent que l'Église, que Simon Kimbangu, le fondateur, aura reçu certaines révélations de Jésus, qui lui a demandé de créer une église qui serait typiquement noire, une église africaine. Et donc, cela s'est d'après lui concrétisé par le fait que d'abord, il était catéchiste chez les missionnaires, et puis, cette révélation-là est revenue auprès de lui à trois reprises. Finalement, comme preuve, il y a eu un miracle en son nom. Il y avait une dame qui était malade, mourante, et il aurait guéri cette dame-là. Après cela, d'après leur croyance, il s'est avéré qu'il y avait certains autres miracles. Donc, ce qui a fait de lui comme un prophète. Malheureusement, comme beaucoup de gens venaient vers lui, ça criait comme une insurrection. Et c'était le temps de la colonisation. Donc, il a été arrêté, incarcéré, et il a été en fait condamné à mort. Mais on a commué sa sentence. Il s'est retrouvé dans la ville de Lubumbashi, et c'est là qu'il est mort 30 ans plus tard. Mais ses adeptes, notamment sa femme et ses enfants, ont repris la chose en main et ont fait de lui un prophète. Et éventuellement, l'Église a commencé autour de ses enfants et la cité ou la ville où il est né, la ville d'Nkamba, est devenue ce qu'ils ont appelé la Nouvelle Jérusalem, une ville sainte. Donc, la révérence se fait au prophète Simon Kimbangu, mais aussi à ses enfants et à ses petits-fils qui, pour l'instant, certains sont en train d'occuper des positions clés dans l'Église. Donc c'est en fait ça leur foi. Et la foi, c'est que l'un de ses fils, par exemple, s'est appelé l'incarnation du Saint-Esprit. Donc d'une manière ou d'une autre, il est vénéré un peu comme un demi-dieu. C'est à cela, sur le plan doctrinal, c'est à cela qu'ils croient. Et sur le plan moral, ils ont certaines normes aussi morales auxquelles ils font allégeance, notamment l'interdiction de boire de l'alcool, l'interdiction, je crois, de fumer, l'interdiction de danser, l'interdiction de faire la polygamie et tout cela. Donc, ils ont beaucoup d'interdictions dans ce sens-là. En résumé, ce à quoi ils croient, ils ont beaucoup d'autres aspects, mais comme j'ai dit, je vois tout cela sur le plan du leadership, non, sur le plan théologique.
Est-ce que c'est une église qui a des pratiques particulières par rapport à d'autres églises du réveil qui se sont révélées dans les Grands Lacs ou même par rapport à l'église catholique?
Oui, absolument. Et je verrai ceci, comme je dis, sur le plan leadership. Donc, je verrai des différences et similarités sur le plan structurel, le plan des ressources humaines, le plan politique et le plan symbolique. Sur le plan structurel, parlons d'abord des différences. C'est que l'église kimbanguiste a été fondée par Simon Kimbangu, qui est le leader de cette église d'Amérique, que lui-même n'a prêché que pendant 6 mois avant qu'il ne soit incarcéré pour le reste de sa vie. Et c'est une église africaine indépendante parce qu'elle est née de sources africaines et a promulgué la foi africaine. Et pour eux, ils ont vu que Jésus s'est manifesté complètement en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Sur le plan de leur terre sainte, ils ont Nkamba, fondateur que elles n'ont pas, je parle des églises, elles n'ont pas d'autre fondateur que Jésus. Et sous Jésus, évidemment, ils voient les envoyés, non seulement des envoyés de Jésus, mais des serviteurs de Jésus, qui seraient des pasteurs, des bergers, des apôtres, et ils ont plusieurs noms. Et c'est des églises de source, en général, de source internationale, qui ont des ramifications sur le pays ou sur le continent, mais les sources sont internationales. Et c'est sûr que c'est des églises qui n'ont pas d'autre terre sainte. Donc ça, c'est sur le plan structurel avec d'autres églises et le veille. La différence avec l'église catholique, c'est que l'église catholique, c'est d'abord une église institutionnalisée, alors que le kimbanguisme, c'est une église africaine indépendante. Il y a une grande différence là-bas. Donc l'église catholique est très universelle et embrasse tous les continents et tous les peuples du monde. Et l'église universelle catholique croit en Jésus comme Dieu et comme homme. Donc, il n'y a pas d'incarnation de quelqu'un ou le pape ou qui que ce soit qui serait comme l'incarnation directe de l'Esprit Saint, ça n'existe pas. Donc, le syncrétisme qui existe dans l'église kimbanguiste n'existe pas dans l'église catholique, c'est sûr. Dans l'église catholique, nous parlons plus de l'inculturation, ce qui fait qu'il y a des aspects d'une certaine culture qui peuvent avoir leur place dans l'église catholique. Mais tout cela, c'est bien structuré, c'est pour ça que c'est l'inculturation. Alors que dans l'église kimbanguiste, on parle plutôt de syncrétisme. Il y a certains aspects choisis qui entrent dans leur église de cette manière-là. Et en général, les sources de ce syncrétisme sont en général, on dirait, païennes. Donc ça, c'est sur le plan structurel. Sur le plan des ressources humaines, l'église kimbanguiste compte sur les descendants de Simon Kimbangu pour continuer à perdurer. Et en clair, on parlerait même d'un certain népotisme, parce que ça va de père en fils et des neveux. Donc c'est la souche qui est en train de diriger l'église. Par contre, dans les églises de réveil, vous pouvez avoir la même chose, un peu de népotisme, mais en général, quand c'est des églises qui sont de source internationale, elles ont des autorités sur le plan international, elles ont des affiliations sur le plan international, la hiérarchie peut être dans un autre pays. Mais aussi, quand c'est des églises nationales, il y a une certaine diversité, je dirais, dans le choix du leadership. Sur le plan politique, il y a une grande différence aussi, parce que l'église kimbanguiste est née sous la colonisation. Elle se battait contre la colonisation à ses débuts. Mais, petit à petit, cette église a commencé à faire allégeance à la politique. À la politique normale, à la politique du moment. Par exemple, l'église kimbanguiste a beaucoup soutenu Mobutu, Kabila le papa, et éventuellement Tshisekedi, parce que, à ce que je sache, il doit être parti à leur centenaire à Kamba.
Il était là.
Donc, il était là. Okay. Donc, sur le plan politique maintenant, s'agissant des églises de réveil, il y a beaucoup de divisions entre elles. Il y en a qui font allégeance à la politique du moment, il y en a qui sont très opposés. C'est sûr que ces églises n'étaient pas là au temps de la colonisation, donc ne pouvaient pas se manifester contre ou pour la colonisation. Et ces églises, sur le plan politique, ne prêchent pas seulement la race noire, que Jésus est venu uniquement pour la race noire ou que nous devons avoir un Jésus noir, je ne pense pas. Les églises de réveil sont en général tribalo-ethniques, pour la plupart quand c'est des églises d'origine nationale. Donc, c'est un peu ça sur le plan politique. Alors, sur le plan politique de l'église catholique, bon, c'est sûr, vous avez les évêques, comme je l'ai déjà dit, et l'église catholique ne fait pas allégeance à la politique du moment. Et pour preuve, pour l'instant, vous avez des tensions au Congo entre l'église catholique et la politique actuelle de Tshisekedi. Alors, l'église catholique fait en sorte que ce qui va à l'encontre de la charité soit dénoncé, que ce soit du côté de la politique, que ce soit du côté de la société elle-même. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan symbolique maintenant, l'église kimbanguiste, comme j'ai dit, ils ont prôné l'incarnation de Jésus en la personne de fils de Simon Kimbangu. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont pris l'anniversaire de ce fils de Kimbangu-là comme leur Noël, comme la naissance même de leur prophète ou de la réincarnation de l'Esprit Saint qui est le 25 mai. Donc, sur le plan symbolique aussi, c'est des gens qui aiment bien la musique, mais leur musique à eux, la musique avec fanfare, grande célébration chrétienne, syncrétisme. Je ne dirais pas qu'ils sont chrétiens pour l'instant, parce que quand vous vous proclamez la réincarnation de Jésus, la réincarnation de l'Esprit Saint, les églises chrétiennes ne soutiennent pas ça. Donc c'est ça qui fait la différence sur le plan symbolique avec les autres églises de réveil. Pour eux, pour ces églises de réveil, Jésus est Dieu. Noël, c'est le 25 décembre. Donc, ils ont, ces églises-là ont des séminaires bibliques pour proclamer la bonne nouvelle. Et ils font des jeûnes de prière, de délivrance et toutes ces choses-là. Donc, c'est relativement différent du symbolisme que l'église humaniste utilise. Enfin, donc, c'est cela que je voulais dire. Mais si vous voulez avoir la similarité entre l'église humaniste et les autres églises, j'en ai déjà parlé. Non, je n'ai pas parlé de la prise en charge de l'église humaniste, des adeptes de l'église humaniste et des adeptes de l'église de réveil. Ces adeptes-là ont une prise en charge sérieuse de leurs pasteurs et de leurs églises. C'est pratiquement eux-mêmes qui construisent leurs églises. Ils n'attendent pas de soutien extérieur de l'Europe, de partenaires extérieurs. En général, c'est eux-mêmes qui font ça. Les deux églises, parlant de humanisme et les églises de réveil, ont la pratique de l'exorcisme et de la transe dans leurs prières de délivrance, exorcisme et tout cela. Et je dirais même à quelques degrés que les deux églises font allégeance à la politique d'une manière ou d'une autre. Sur le plan du leadership, pour les deux églises, humanistes et les églises de réveil, ils ont des leaders qui sont plus charismatiques que transformationnels. Charismatiques dans le sens où ils ont certains caractères en eux, certains dons en eux, comme le courage, la persévérance et tout ça, et qui fait qu'ils ont des adeptes. Ce sont des caractéristiques qui ne sont pas enseignables, qu'on ne peut pas transmettre d'une personne à une autre, parce que ça dépend de la personne qui est chargée de l'Église. Donc, c'est le fait de pasteur, ceux qu'ils appellent apôtres, qui incarnent certaines caractéristiques propres à eux, c'est des caractéristiques qui ne sont pas transmissibles. Donc c'est pour ça que je les appelle leaders charismatiques.
Est-ce que l'église kimbanguiste a ses influences en dehors du Congo?
Depuis certaines années, ils se sont répandus. Bon, évidemment, les Congolais ont immigré dans plusieurs pays, en France, je parie en Angleterre et surtout en Belgique où il y a plusieurs Congolais. Vous avez la présence de l'église kimbanguiste là-bas. J'ai eu une photo ici où ils célébraient le 25 mai dernier comme leur Noël. Et nous parlons de 30 millions d'adeptes au Congo. Or, il y a à peu près 10 millions d'adeptes. Et les autres sont à l'extérieur du Congo. Ça signifie que c'est une église qui s'est relativement bien répandue à travers le monde. Si Kimbangu lui-même n'avait pas été, comme on dirait, celui qui a gouverné ou a amené l'église au niveau qu'elle est pour l'instant, parce qu'il était incarcéré. Juste après avoir prêché pendant 6 mois, il était incarcéré. Et son fils, Joseph Diangenda, a pris la reine de l'église. Mais il faut aussi compter, nous ne devons pas oublier le rôle de sa femme, la femme de Simon Kimbangu, Marie Mouilou, grâce à qui actuellement l'église s'est bien répandue, parce qu'elle a pu ordonner certains prophètes, ou je ne sais pas comment ils les appellent, c'est elle qui a fait l'ordination des premiers adeptes qui seraient comme des... Le mot diacre n'existe peut-être pas là-bas, mais qui seraient comme des prophètes, comme des... pas tout à fait des successeurs, mais comme des ministres.
Le rôle de sa femme a été très déterminant.
Absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas oublier. Marie Mouilou a été comme clé, en fait, pendant que son mari était en prison. Elle s'est dit, non, il vaut mieux que l'Église avance. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise à ordonner certains adeptes pour les hisser au rang de prophètes ou de ministres de la parole. Et c'est comme ça que l'Église a avancé. Mais la hiérarchie elle-même appartient à la famille.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'est une histoire très intéressante.
Oui, absolument. C'est très intéressant, pour autant qu'ils ont milité dès le début pour une église qui serait complètement noire. Et ils ont comme réécrit un peu la Bible en disant par exemple que Adam et Ève étaient noirs. Ils n'étaient pas, ce qu'on dirait, blancs. Donc ils voulaient réécrire une église noire. Ce qui est quand même quelque chose d'audacieux. C'est pour ça qu'ils ont certainement beaucoup d'adeptes qui pensent que l'Église doit nous appartenir. Qu'en est-il de nous si tout est blanc, partout où nous allons c'est blanc, qu'en est-il de nous? Mais bon, l'Église catholique est universelle et des ramifications sont partout. Les Noirs se trouvent là-dedans et les Jaunes et tout le monde. Donc on ne s'en plaint pas. Mais voilà, c'est une Église qui continue à faire du chemin et qui aura de l'avenir.
Merci beaucoup. c'est le dialogue des religions. Nous sommes en ligne avec Joseph Dianguenda. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Eric.
Vous êtes membre de l'église kibangouiste, n'est-ce pas?
Oui, je le suis.
Voudriez-vous nous dire comment vous le devenez? Comment ça commence?
Bon, l'église kibangouiste, c'est comme toute l'église. Il y a comment on devient membre par adhésion libre. Quand vous acceptez de communier, de partager la foi kibangouiste, hein? Mais nous autres, par exemple, moi personnellement, je suis devenu membre par mes parents. Parce que mes parents sont des kibangouistes. Je suis né déjà dans la famille kibangouiste. C'est la religion que mes parents m'ont amenée. À l'âge de 12 ans, je me suis fait baptiser. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je suis resté fervent kibangouiste. J'ai accepté la foi kibangouiste moi-même aussi. Je trouve que c'est une bonne foi.
Et c'est quoi la foi kibangouiste, justement?
La foi kibangouiste, c'est croire à Dieu le Père et en Jésus-Christ et en Dieu le Saint-Esprit. Nous communions dans la Trinité, comme on dit avec l'ingala bolingo bébé comme ça. C'est-à-dire que les kibangouistes, nous partageons, nous reconnaissons l'autorité de Dieu le Père et nous reconnaissons aussi l'autorité de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Et Papa Simon Kimbang, qui est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, qui occupe la troisième personnalité dans la Trinité.
C'est-à-dire?
Dieu le Saint-Esprit.
Donc, Simon Kibang est pris comme un Dieu, c'est ça?
Il n'est pas pris comme un Dieu, mais c'est un Dieu. Parce qu'il faut être dans la foi pour comprendre cela. Il occupe la troisième personnalité dans la Trinité. Et Dieu est trinitaire, Dieu en lui a Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, c'est le Fils s'est manifesté en Jésus-Christ, comme nous tous nous connaissons l'histoire. Et le Saint-Esprit aussi s'est manifesté en Simon Kibang, que nous connaissons, que certains aussi commencent à comprendre actuellement.
Et depuis que vous découvrez l'Église à travers vos parents, vous avez appris à aimer l'occulte?
Bien sûr que oui, parce que, comme j'ai dit, personnellement, je suis devenu kibangouiste à travers mes parents, mais j'ai décidé aussi d'y rester parce que quand j'ai eu l'âge des raisons, j'ai compris que c'est une bonne voie, j'ai adhéré. Moi, peut-être j'ai la chance par les parents, il y a des gens qui viennent par révélation. Parfois, le Saint-Esprit se révèle à lui, il lui montre qu'il faut suivre la voie kibangouiste. Il y a des gens qui suivent les musiques, il y a des gens qui suivent les prédications. Parfois, la prédication du papa de son éminence, chef spirituel. À l'époque, papa d'Engenda, actuellement, papa Simon Kibang Kiangani. Donc, il y a plusieurs manières. Il y a une voie qui vous amène, mais une fois aussi, cette voie vous amène, vous entendez, vous recevez l'enseignement, et vous y croyez, et vous devenez fervent.
Est-ce que ce n'est pas une église qui est devenue un peu comme une institution dynastique ou monarchique, parce que le chef spirituel, c'est toujours un descendant de son créateur?
Oh non, pas tout à fait, parce que je ne sais pas si vous allez me dire le contraire. L'œuvre de Dieu se passe toujours en famille, parce que Dieu lui-même n'a pas envoyé un ange, il a envoyé son fils, Jésus-Christ. Il pouvait envoyer une autre personne, peut-être un autre être spirituel, un ange ou ceci, je ne sais pas. Mais il a envoyé son fils. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan matérialisation, Abraham, que nous considérons le père de la religion même, parce que Abraham, ça passait à travers son fils, Isaac, Esaü et Jacob. Vous comprenez? Donc, je crois que ce qui est important, ce n'est pas le fils en père, mais ce qui est important, c'est rester dans la lignée des traces des responsabilités confiées par les fondateurs. Par exemple, que nous sommes papa Simon Kibang, c'est le fondateur de l'église kibangouiste. Avant son départ, il a choisi un de ses fils, donc son fils cadet, papa Dianguenda, pour rester comme chef spirituel. Et il nous a démontré qu'il était valable, sur tout le temps spirituellement et matériellement. Et à sa mort, son frère, Dialungana Kiangani, qui s'occupait déjà d'Nkamba, qui était le chef spirituel adjoint, il a remplacé son frère. Et après sa mort aussi, son fils, Simon Kibang Kiangani, l'actuel chef spirituel, il a remplacé, il est valablement, parce qu'il continue à jouir cette plénitude-là, nous voyons en lui la continuité de Simon Kibang. D'ailleurs, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, Simon Kibang Kiangani, l'actuel chef spirituel, est l'incarnation de Simon Kibang de 1921. Lui-même avait prédit ça en 1951 qu'il va naître de nouveau.
Pour vous, qu'est-ce que vous trouvez dans l'église kibangouiste de plus important qu'ailleurs?
Toutes les églises, d'une manière générale, les églises concourent au salut de l'homme. Les gens prient pour se mettre en bonne relation avec Dieu. Mais ce qui fait la particularité de l'église Kimbangu, c'est une église créée par Dieu et dirigée par Dieu lui-même. Et puis, il faut comprendre les contextes dans lesquels l'église Kimbangu est créée, où elle existe, et pourquoi l'église Kimbangu existe. D'abord, Dieu est Trinité. Dieu est le Fils, Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au départ, avant la création, tout était spirituel. Dieu a créé le monde, il a créé tout ce qui existe, mais il n'avait pas encore créé l'homme. Au ciel, au paradis, Lucifer, que nous appelons aujourd'hui Satan, Lucifer, il n'était pas mauvais. Il n'était pas du côté négatif, il était un serviteur, un commandant, le chef d'état-major de l'armée céleste. Il avait désobéi Dieu, le Saint-Esprit, parce que Dieu, le Père, lui avait ordonné. Et une fois, il est revenu donner son rapport, on lui a dit non, maintenant, là, il faut aller vers le Fils. Et lui qui croyait, il venait directement après Dieu. Mais il sait, il y a un fils, il était étonné, il s'est mis en troisième position, il a accepté. Et la prochaine fois, on lui dit, il faut aller vers le Saint-Esprit. Là, il s'est positionné en quatrième position, il a dit non, pas question. Comme il avait la majorité des anges étaient derrière lui, il s'est trouvé dans la majorité et il s'est rébellé. C'est comme ça que Dieu aussi a la précipité sur terre. Ça, c'est... Donc, il avait désobéi à l'ordre établi au ciel. Il ne voulait pas devenir quatrième personnalité. Maintenant, Dieu a créé l'homme pour que nous soyons les maîtres de l'humanité. L'homme était puissant, le premier homme que Dieu a créé, Adam. Il chassait Lucifer. Mais Lucifer, comme il était élevé, il a utilisé le serpent pour faire tomber l'homme. Quand il a fait tomber l'homme, le péché a commencé. Maintenant, depuis que le péché a commencé, c'est pourquoi je suis dans ça, Dieu maintenant voulait récupérer les hommes. C'est comme ça qu'il a envoyé son fils. D'abord, il est parlé à travers les prophètes, hein, nous connaissons les déliges, Abraham, tout ce qui est Moïse et tout, tout. Mais après, ils ont décidé au ciel d'envoyer son fils, Jésus-Christ, pour venir mourir, pour nous reconnecter avec Dieu, parce que les ponts étaient cassés. Et Jésus-Christ lui-même maintenant a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Il viendra achever sa mission. Et ce Saint-Esprit, c'est Simon Kimbangu. Donc Simon Kimbangu est venu, il a créé l'Église. L'église Kimbangu. Donc l'église Kimbangu, c'est l'église qui est venue mettre de l'ordre dans le monde, qui est venue achever la mission de Jésus-Christ. C'est pourquoi depuis sa création, elle est dirigée par Dieu lui-même, incarné dans un corps humain. Donc tout le monde, normalement, est Kimbangu. On peut être catholique, des rêves, on sort, la finalité, c'est Kimbangu. C'est la seule église au monde où nous savons là où nous allons après la mort. C'est la seule église au monde où nous ne chantons pas les chansons humaines. Nos chansons sont des chansons captées par les gens qui ont les dons, par les anges. Donc nous avons, il y a beaucoup d'aspects spirituels qui justifient réellement que l'église qui mène est la meilleure à la longue. On verra, toutes les églises vont déverser vers l'église qui mène. Parce que l'église de Dieu sur la terre.
Merci Joseph Ndiangenda pour avoir exprimé votre conviction, votre adhésion à l'église kibanguiste. Merci beaucoup.
C'est quand même l'année du centenaire. On ne pouvait pas clôturer sans parler du centenaire. Parce que depuis que Simon Kimbangu a commencé son ministère en 1921, le 6 avril, ça fait exactement 100 ans. Et ce qui justifie même l'œuvre, elle est l'œuvre salvatrice, l'œuvre réellement dédiée. Parce que Simon Kimbangu, on a prêché que pendant 5 mois et demi, le 6 avril 1921, au 12 septembre 1921, il a été arrêté, incarcéré, mis en prison pendant 30 ans. Son enseignement de 5 mois et demi, pendant 100 ans, elle est devenue une grande église de plus de 20 millions de membres. Elle est partout dans tous les continents aujourd'hui. Et c'est ça un peu dont nous avons fêté le centenaire. Et à cette occasion, nous avons construit un grand musée en Kamba, qui est peut-être le premier musée. Aucune église a ce genre de musée où nous allons récupérer tous les objets de Simon Kimbangu, qui ont été mis là-bas, notamment les tonneaux dans lesquels il a été mis et soudé, jeté dans le fleuve pour la tentative de se tuer. Et la chaîne, il y a beaucoup d'objets. Donc je voulais que les gens sachent que nous sommes dans l'année de santé et l'église qui m'amène.
Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci de nous avoir suivis. Merci à Lionel Lounadela Gaïma qui a assuré la mise en onde. Eric Manakibla était avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.